sanitaire de l'Union africaine, joint par Christina Okello. Il est 5h42 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
Afrique Matin à suivre, reportage en Centrafrique avec les forgerons de Bossongo. C'est à 50 km seulement de Bangui. Mais en fait, rares sont les habitants de la ville qui peuvent se permettre de se rendre dans la capitale. Et ces forgerons donc ont un rôle clé pour leur fournir du matériel agricole ou encore le nécessaire pour pêcher ou pour chasser. On parlera aussi de la future élection présidentielle au Gabon au mois d'avril et de la candidature ou non du président de la transition, le général Oligui. On en parlera avec notre invité, le chercheur Bergès Mieté. Et puis nous sommes vendredi. Rendez-vous tout à l'heure avec Charlotte Ntamack pour la parole de Charlotte, mais tout de suite ce sont les sports. Le journal des sports avec Florence Valmet. Bonjour Florence.
Bonjour Xavier.
Il flotte un parfum d'Amérique à Paris. Le premier des deux matchs de basket délocalisé cette semaine par la NBA dans la capitale française. Ce premier match s'est tenu hier soir à l'Accor Arena à Bercy.
Avec la victoire écrasante des San Antonio Spurs, un succès 140-110 face aux Indiana Pacers. Soirée idéale pour le prodige français Victor Wembanyama, auteur d'un match plein sous les yeux d'un public acquis forcément à sa cause. En face, Pascal Siakam et ses coéquipiers ont semblé impuissants. Au micro de Victor Misistrano, le Camerounais regrette le manque de combativité de son équipe.
On s'est pas battu du tout, c'était facile pour eux. On n'a pas eu l'énergie, vraiment. On s'est pas juste battu, genre, c'était trop facile pour eux. Tout le match, ils faisaient ce qu'ils voulaient. On a manqué des tirs, donc ça n'a pas aidé. S'ils marquent, je sais pas combien de points, 140 points, c'est... On peut jamais gagner, donc on doit pouvoir jouer en défense mieux et je pense qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Mais bon, c'est pour ça que t'as un deuxième match, donc c'est ça, la NBA, ça arrive, faut juste oublier ça, corriger ce qu'on a à corriger, essayer de faire mieux le match prochain.
Et le deuxième match, c'est déjà dès demain samedi pour la revanche donc entre les Spurs et les Pacers, toujours à Paris. Le match a lieu à 17h TU.
En football, début ce vendredi de la 19e journée de Ligue 1 avec un duel de seconde partie de classement.
Auxerre, 11e, accueille le barragiste Saint-Étienne. Une nouvelle occasion pour les Bourguignons de sortir d'une mauvaise série de résultats. Leur dernière victoire en championnat remonte à fin novembre, avec pour conséquence une lente et dangereuse glissade vers la zone rouge. Des Auxerrois qui ne sont pas aidés par leur buteur malien Lassine Sinayoko, en manque criant de réalisme avec seulement 2 buts à son compteur depuis le début de la saison. Mais il tient à raviver sa flamme pour un club qui lui est cher et où il a prolongé jusqu'en 2026, Babacar Diarra.
Lassine Sinayoko a le logo de la JOCR griffé sur la peau depuis 2017. Une fidélité entamée en catégorie de jeunes est rare dans le football contemporain.
Ce club-là, il m'a fait confiance. C'est les seuls qui sont venus me chercher, entre guillemets. Je me dois de leur rendre l'appareil. Le fait que je prolonge à chaque fois, c'est comme leur rendre l'appareil, essayer de leur rendre l'appareil au maximum.
Retrouver de l'efficacité serait une belle manière de rendre à son club de cœur en panne de résultats. Auxerre cherche une victoire depuis novembre, mois des deux uniques buts inscrits par l'Aigle du Mali cette saison.
Si je mets le doute dans ma tête, c'est là que les problèmes commencent. Toute l'équipe a confiance en moi, tout le club a confiance en moi, et moi-même j'ai confiance en moi, donc à partir de là... Le doute, il n'est pas permis.
Dans le top 4 des équipes de Ligue 1 à la maison, la GIA de Sinayoko reçoit Saint-Étienne avec son 12e homme, le stade de l'Abbé Deschamps.
Je vois aucune personne douter, donc quand tu ressens ça malgré l'enchaînement de défaites, tu te dis que tu tiens le bon bout.
Un état d'esprit positif, indispensable dans cette mission maintien.
Et Auxerre Saint-Etienne, coup d'envoi à 19h45 TU ce soir.
Enfin, direction Zagreb et le mondial masculin de handball. Deux nations africaines jouent aujourd'hui leur deuxième match du tour principal.
Et deux nations qui ne sont pas dans la même situation. Le Cap-Vert, dernier de son groupe, a besoin impérativement d'une victoire pour rester en vie. Les Cap-Verdiens sont au bord de l'élimination. Ils retrouvent l'Argentine, mal en point également et juste devant au classement. Le match est à suivre dès 14h30 TU. L'Égypte, 4e de ce même groupe, est-elle toujours en course pour une qualification pour les quarts de finale de la compétition? Elle affronte la Slovénie. Le match est à suivre à 17h TU.
Merci Florence Valmet, c'était le journal des sports. Un reportage en Centrafrique dans une minute. Avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce vendredi 24 janvier 2025 avec un premier revers pour Donald Trump aux États-Unis. Un juge de Seattle a suspendu la remise en cause du droit du sol ordonnée par le président américain lors d'un décret signé le jour de son investiture. Mesure jugée contraire à la Constitution par ce magistrat. Probable premier épisode d'une longue bataille judiciaire. Donald Trump qui ordonne par ailleurs la déclassification complète des archives du gouvernement américain sur les assassinats de John Fitzgerald Kennedy en 1963, de son frère Robert Kennedy en 68, ainsi que du leader des droits civiques Martin Luther King. Et de l'autre côté de la frontière, au Mexique, on anticipe l'expulsion de milliers de personnes annoncées par le président américain. Une dizaine de refuges sont en construction dans le nord du Mexique. Des centaines de Palestiniens ont quitté hier le camp de réfugiés de Jenin, en Cisjordanie occupée, au troisième jour d'une opération de l'armée israélienne. Opération baptisée Mur de fer qui a fait au moins 12 morts. Paris et Jakarta doivent signer aujourd'hui un accord sur le transfèrement de Serge Atlaoui, ce Français condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue, transfèrement qui devrait intervenir le 4 février selon les autorités indonésiennes. Et nous débutons donc ce matin une série de trois reportages à Bossongo. Comment vit-on dans cette localité située à une cinquantaine de kilomètres de Bangui, la capitale centrafricaine? Demain et après-demain, nous irons à la rencontre des cultivateurs de manioc, puis des élèves de l'école professionnelle d'hôtellerie. Mais ce matin, nous sommes avec les forgerons de Bossongo, des hommes qui ont un rôle clé, car si la capitale n'est qu'à 50 kilomètres, rares sont ceux qui peuvent aller y acheter du matériel agricole ou des outils pour pêcher et chasser. Reportage de Rolf-Steve Domialeux.
En cette matinée de janvier, Hervé Elie est en pleine activité dans son atelier. Ici, il fait chaud et l'ambiance est cadencée par des coups de marteau et de masse. Vêtu de combinaisons bleues, de bottes rouges et de gants, ce forgeron de 46 ans est en train de fondre du métal avec un feu à 90 degrés. Un savoir-faire transmis au sein de sa famille.
J'ai pris la suite de mon père dans cet atelier. Il m'a appris le métier dès que j'ai eu 8 ans. Ici, nous fabriquons des arrosoirs, des haches, des couteaux et plein d'autres choses. Nous travaillons avec des objets recyclés. Il s'agit de carrosseries de voitures et de vieilles tôles.
C'est un métier difficile qui exige de l'endurance, la technique et la patience. À cause de la chaleur, Hervé Elie enlève la chemise de sa combinaison pour mieux préparer le four.
Dans ce magasin, nous stockons le bois de chauffe, notre unique source d'énergie. Une fois que le métal est bien chaud, on peut facilement lui donner la forme que l'on souhaite à l'aide de marteaux ou de masse. Nous avons appris ce métier de nos parents et nous le transmettrons à nos enfants.
Assis sur des bancs à l'entrée de la petite usine, certains clients sont venus acheter du matériel, mais d'autres sont là pour réparer leurs outils endommagés. Marc Gonedi est l'un d'eux.
Les produits qu'ils vendent ici sont abordables. Ça varie entre 2500 et 15 000 francs CFA en fonction du matériel demandé et de la matière première utilisée. Je suis cultivateur. J'ai besoin de tous ces outils pour travailler la terre.
Torse nu, marteau en main, Gilles Fedanga n'a pas eu la chance de faire de grandes études. Âgé de 19 ans, il utilise son talent de forgeron pour gagner sa vie.
Nous avons un coffre-fort pour conserver nos recettes. À la fin du mois, chacun touche un salaire en fonction du marché. Notre principale difficulté, c'est l'accès aux matières premières. Parfois, nous avons des commandes de clients, mais c'est difficile de trouver les tôles, le métal et les fers appropriés. Même si ça nous bloque, on ne compte pas baisser les bras, car seul le travail libère l'homme. Avec l'aide de Dieu, ça ira.
Même si en République centrafricaine, ce métier se pratique de façon artisanale, ces jeunes sont remplis d'ambition. Ils souhaitent installer dans les prochaines années une usine de fabrication de matériel moderne. Rolf Steve Domialeux, Bangui, RFI.
Et demain, le reportage Afrique sera encore à Bossongo. Notre correspondant est allé à la rencontre des cultivateurs de manioc de cette localité. À Bossongo, en Centrafrique, il est 5h51. 7h51 à Kampala, en Ouganda, où le dernier sommet de l'Union africaine s'est posé la question de la politique alimentaire du continent pour les 10 prochaines années. Les membres de l'Union africaine ont défini une nouvelle feuille de route pour la prochaine décennie, 10 ans après celle de Malabo. Et de ces décisions, il en avait déjà été question quelques mois plus tôt pendant le Forum africain des systèmes alimentaires à Kigali. Et c'est le dossier Afrique Éco de notre correspondante au Rwanda, Lucie Mouillot.
Contrairement à la déclaration de Malabo centrée sur le secteur agricole, l'agenda approuvé à Kampala adopte une approche plus holistique des besoins du système agroalimentaire du continent. Une vision plus large, fondamentale, affirme Marc Bertin Gansonré, député et secrétaire général de la Confédération paysanne du Burkina Faso.
Il ne suffit pas seulement de produits, c'est aussi apporter une valeur ajoutée à cette production. Apporter de la connaissance aux agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser les techniques et les technologies, travailler sur les infrastructures routières et travailler à accompagner le secteur industriel à se développer. C'est un grand chantier, mais on va se donner les moyens de réussir ce que nous allons commencer.
Parmi les objectifs de Malabo, l'affectation de 10% du budget de chaque pays à l'agriculture ou encore la réduction de moitié de la pauvreté d'ici 2025. Des objectifs très ambitieux, loin d'avoir été atteints par les États membres. Jérémy Lissouba, député congolais et secrétaire général du réseau parlementaire africain sur les systèmes alimentaires.
Nous constatons que très peu, si ce n'est aucun pays, n'a réellement réussi à allouer 10% de ses budgets nationaux. Notre vrai défi n'est pas un défi technique ou technologique, ni même financier. Notre vrai défi est un défi politique. Kampala doit être une décennie décisive. Relancer cette volonté politique.
D'ici 2035, la déclaration de Kampala vise notamment à réduire de moitié les pertes post-récolte, à tripler le commerce intra-africain de produits alimentaires ou encore à augmenter de 35% les aliments transformés localement. Donald Brown, vice-président du Fonds international de développement agricole. One thing in the post-Malabo
world that will be important. Dans le monde de l'après-conférence de Malabo, il sera important de traduire les déclarations du niveau continental vers les organismes régionaux tels que la SADC et la CDAO, où les ministres des Finances seront mutuellement responsables des résultats obtenus.
La déclaration de Kampala réaffirme l'urgence de développer la capacité du continent à nourrir ses habitants pour 58% touchés par une forme modérée ou sévère d'insécurité alimentaire selon la FAO. Un enjeu d'autant plus important face aux prévisions sur la croissance démographique, estimant à 2,5 milliards la population africaine d'ici 2050. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Se pose maintenant la question des candidats au Gabon après l'annonce du gouvernement de transition. C'est dans moins de 3 mois, le 12 avril, que se tiendra l'élection présidentielle censée mettre fin à la période de transition. L'auteur du putsch de 2023, le général Oligui Nguema, sera-t-il candidat? Quid des poids lourds de l'opposition? Ce matin, notre invité Afrique est Bergès Mieté, enseignant-chercheur à l'Université internationale de Libreville, également chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux. Christophe Boisbouvier lui a d'abord demandé si, selon lui, les Gabonais n'allaient pas rappeler au général Oligui qu'il avait promis en 2023 de rendre le pouvoir aux civils.
Je pense qu'il ne fait aucun doute que le général briguera la magistrature suprême. Ce que l'opinion gabonaise attend davantage, c'est la capacité du président de moderniser le pays. Est-ce que Oligui Nguema, il est capable, mieux que le régime précédent, de transformer le pays, de répartir équitablement les ressources du pays de manière à ce que tous les Gabonais puissent en profiter? Je pense que la vraie question, c'est à ce niveau-là. Maintenant, si les leaders de l'opposition estiment qu'ils ont la capacité de porter et de réaliser ce projet-là, je pense qu'ils ont tout à gagner à se porter candidat à l'élection présidentielle, de sorte que le meilleur l'emporte.
Mais si l'opposition fait campagne contre le fait qu'un militaire soit candidat, vous pensez que ça n'aura pas beaucoup d'écho dans la population gabonaise?
C'est vrai que depuis quelque temps, l'euphorie qui accompagnait le coup de libération entre guillemets s'est plus ou moins estompée. Certains Gabonais deviennent de plus en plus critiques à l'égard des nouvelles autorités. Qu'à cela ne tienne, Oligui Nguema a encore des soutiens au niveau national et globalement, je pense que beaucoup parmi les Gabonais ne verraient aucun obstacle à ce que Oligui Nguema puisse se porter candidat à l'élection présidentielle.
Alors, vous évoquez le problème de la transparence des élections. Si elles restent organisées par le ministère gabonais de l'Intérieur, est-ce que cela ne va pas jeter la suspicion sur leurs résultats ?
Certains doutent la capacité du ministère de l'Intérieur d'organiser de manière démocratique des élections à venir. Mais je pense qu'il est trop tôt pour faire ce procès-là. On attend voir comment est-ce que, de manière pratique, les élections à venir seront organisées.
Et le chercheur Bergès Mietté, invité de Christophe Boisbouvier, entretien à écouter dans une heure et à retrouver en intégralité sur RFI.fr. Et comme tous les vendredis, c'est l'heure de la parlotte de Charlotte. Charlotte Ntamack, vous nous dites que d'un pays à l'autre, il n'y a pas que les marchandises qu'on importe, il y a aussi les personnes.
Oui, lorsqu'on parle d'importation, d'aucuns pensent qu'il n'y a que les marchandises ou les matières premières qu'on importe. Pourtant, les êtres humains s'importent aussi. Il ne s'agit pas d'importation d'êtres humains comme dans le honteux commerce triangulaire, hein, mais d'un système non commercial où ce sont les personnes concernées qui souhaitent être importées. J'ai dit, hein, laisse-moi un peu tes histoires que loin des yeux, près du cœur. Depuis que tu es en Bengla, moi je suis fatiguée d'attendre. Hein. Pardon, viens m'importer. L'importation est une chance pour une personne, une famille, voire tout un village. Je dis, hein, quand le taximan là voulait épouser la fille, si, la liste de la dot, c'était seulement les millions, alors que c'est lui qui a financé ses études avec son taxi. Quand le mbenguiste vient demander sa main, la famille accepte qu'elle soit dotée à crédit. Laisse seulement mon frère. Tu sais que lui, au moins, il va l'importer. Hein? Si on l'effraie avec la liste, c'est une autre famille qui va profiter. Hein? L'importation intervient quand on ne trouve pas sur place ce dont on a besoin. Gars, j'en ai marre d'un go de mbeng. Je pars importer une go depuis le pays. Mako, est-ce que je savais que même ici en mbeng, les gars sont bandits comme ça? Donc la télé nous a menti. Hein? Hey, mieux je pars importer mon bon gars que j'ai laissé au pays. Mais l'importation n'est pas toujours sans risque. Hein? Mako, tu dis que quoi? Tu importes un homme depuis le pays? Tu es folle. Donc ce que Patricia a subi là ne te dit rien. Après, ne te plains pas qu'une blanche a arraché ton bon gars. Hein? Mieux tu continues de le gérer à distance. Qui dit import dit export. Et souvent l'importateur regrette son importation. Man, n'est-ce pas, je t'avais bien dit que tu ne m'as pas écouté. Aller importer une go depuis le pays, non, tu as le cœur. Moi, je ne peux pas, même si on me tue. Maintenant, Ben lui a ouvert les yeux. Il faut supporter, c'est le risque de l'importation. Ce qui s'importe difficilement ne s'exporte pas facilement. Mais parfois, avec malice, l'importateur devient exportateur. Bah, papa, j'en ai marre là, quand est-ce qu'on repart? Reparti où? Bah, en France. Quand est-ce qu'on y retourne? Qui t'a dit que tu vas retourner en France? Mais il t'avait dit qu'on venait juste en vacances, non? En vacances, hein? Sache donc que tu vas rester ici. Je vais voir comment tu vas faire les doigts d'honneur aux enseignants ici et inventer tous tes mensonges sur moi devant les tribunaux. On importe ce qui est important et souvent on exporte ce qui l'est tout autant. À vendredi.
À vendredi prochain. Merci Charlotte Ntamack. Merci aussi à Didier Cherouz qui était à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin. Passez une excellente matinée à l'écoute d'RFI.
Ce dimanche sur RFI, idée. Pierre-Édouard Deldic.
Le psychanalyste Gérard Haddad, qui a exercé en Israël, nous propose un essai qui s'intitule « Archéologie du sionisme ». Il est avec nous.
Cette idéologie sioniste a quelque chose de vraiment profondément désagréable pour un juif. Je ne parle pas pour les autres, mais ils en pâtissent encore plus. Mais nous, les juifs diasporiques, on souffre.
Idée proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.